La première, podcast.
Semences de curieux. Jacques Olivier.
Bonjour. Dans un monde à l'heure de l'informatique, il est curieux que les noms de Charles Babbage, Alan Turing ou John von Neumann ne soient guère plus connus, comme nous allons le voir dans la suite de notre conversation avec Marie Dudekem-Gevers, qui travaille aux fondations universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur sur l'histoire de l'informatique. Chacun mériterait que l'on s'y attarde plus longuement. Même si Blaise Pascal est davantage connu, lui, ce n'est pas forcément pour être l'inventeur de la pascaline, une des premières, dirons-nous prudemment, machines à calculer. Car ce sera l'aspect que nous aborderons aujourd'hui, comment en est-on arrivé à automatiser le calcul et, au-delà même, si l'on considère que d'une certaine manière calculer c'est raisonner, comment on en vient à automatiser le raisonnement. Babbage, Turing et von Neumann feront chacun des pas décisifs vers ce qui est devenu en peu de temps un objet aussi ubiquitaire que banal, l'ordinateur. Rendez-vous donc avec Marie Dudekem-Gevers dans quelques minutes. Dans la conversation que nous entendrons dans un instant avec Marie Dudekem-Gevers, je mentionne la manufacture à logarithme de M. de Prony. Qui était ce monsieur, baron Gaspard Marie Riche de Prony, né en 1755 et mort en 1839? Eh bien, il était entre autres choses ingénieur en chef des ponts et chaussées, inventeur du frein dynamométrique et du flotteur à niveau constant, autrement dit d'un système qui permet de maintenir un niveau d'eau constant dans une cuve. De façon générale, il s'intéressera de près d'ailleurs à l'hydraulique. Il sera responsable de l'aménagement d'une partie du cours de la Saône, du Rhône ou du Pô, des ports de Gênes et de la Spezia à Venise. Après Léonard de Vinci, il se penchera aussi sur l'assèchement des marais pontins. Mais ce n'est pas à ce titre qu'il nous intéresse ici. En 1794, dans la foulée des réformes entamées par la Révolution, il est membre de la commission des poids et mesures, dont le travail d'une importance fondamentale est l'unification. Et puis d'autre part, dès 1790, l'Assemblée constituante avait créé un impôt foncier, un impôt sur le revenu cadastral, mais d'un cadastre largement à établir encore. Vaste travail, et qui nécessite de la géométrie, des mathématiques et en particulier l'usage de tables trigonométriques. Problème, il faut que ces tables soient recalculées dans le nouveau système métrique désormais en vigueur. Qu'à cela ne tienne, M. de Prony va mettre en route ses calculateurs, toujours très humains ceux-là. Mais pour autant, il va, dirait-on aujourd'hui, rationaliser le travail. Et c'est en cela qu'il apparaît dans les cours pour manager au chapitre de la division du travail, une division du travail intellectuel dans ce cas précis. Un auteur contemporain de M. de Prony rapporte ceci. M. de Prony s'était engagé, avec les comités du gouvernement, à composer pour la division centésimale du cercle des tables logarithmiques et trigonométriques qui non seulement ne laissassent rien à désirer quant à l'exactitude, mais qui formassent le monument de calcul le plus vaste et le plus imposant qui eût jamais été exécuté ou même conçu. Les logarithmes des nombres de 1 à 200 000 formaient à ce travail un supplément nécessaire et obligé. Il fut aisé à M. de Prony de s'assurer que même en s'associant 3 ou 4 habiles coopérateurs, la plus grande durée présumable de sa vie ne lui suffirait pas pour remplir ses engagements. Il était occupé de cette fâcheuse pensée lorsque, se trouvant devant la boutique d'un marchand de livres, il aperçut la belle édition anglaise de Smith, entendez Adam Smith, donnée à Londres en 1776. Il ouvrit le livre au hasard et tomba sur le premier chapitre qui traite de la division du travail et où la fabrication des épingles est citée pour exemple. À peine avait-il parcouru les premières pages que par une espèce d'inspiration, il conçut l'expédient de mettre ses logarithmes en manufacture comme les épingles. Il faisait en ce moment à l'école polytechnique des leçons sur une partie d'analyse liée à ce genre de travail, la méthode des différences et ses applications à l'interpolation. Il alla passer quelques jours à la campagne et revint à Paris avec le plan de fabrication qui a été suivi dans l'exécution. Il rassembla 2 ateliers qui faisaient séparément les mêmes calculs et se servaient de vérifications réciproques. Fin de citation. Le baron de Prony divisa en effet le travail en 3 sections. La première était constituée du gratin de ses mathématiciens, 5 ou 6 semble-t-il, dont la tâche était de trouver la meilleure méthode pour réaliser le travail numérique. Une fois définie, cette méthode passait dans les mains de la seconde section, qui avait, eux, pour mission, cette fois, de convertir les formules de calcul proposées par la première section en une suite d'opérations numériques simples de calculs élémentaires. À charge alors pour la troisième section, la plus nombreuse, entre 60 et 80 personnes, qui ne connaissaient que l'arithmétique élémentaire, c'est-à-dire l'addition et la soustraction, de calculer les opérations qui avaient été préparées par la deuxième section. À noter enfin que M. de Prony utilisait le système de la double saisie que l'on utilise aujourd'hui encore quand il faut encoder un grand nombre de données. Il est peu probable en effet que 2 opérateurs se trompent au même endroit. Dès lors, s'il y a discordance, c'est qu'il y a erreur et l'on corrige. Nous allons voir maintenant avec Marie Dudekem-Gevers qu'un certain Charles Babbage a visité la manufacture à logarithme de M. de Prony.
Grande tendance, évidemment, c'est ces fameuses machines à calculer. Donc on en vient à...
C'est vrai, on a déjà parlé plusieurs fois de la Pascaline, qui a été réalisée par Pascal alors qu'il n'avait que 19 ans. Dit-on pour aider son père dans ses calculs. Mais ce qui est vrai, c'est que donc lui, il a eu le cran, mais c'est un esprit d'envergure, donc il a eu le cran de mettre de l'intelligence dans une machine. Et c'est vrai aussi qu'il a accompagné sa machine, ou ses machines, parce qu'il en a fait plusieurs, qu'on peut voir d'ailleurs au Centre national des arts et métiers à Paris, hein, plusieurs de ses machines. Donc il a accompagné cela d'une lettre au roi, en s'excusant, en expliquant que ces machines peuvent calculer automatiquement, mais qu'il n'y a pas de malice là-derrière, que la volonté reste proprement humaine. Enfin, vous voyez, il a dû se dédouaner de ce qu'il faisait, parce que c'était impensable. Et d'ailleurs, celui qui l'a précédé, il y a plusieurs machines. La machine de Schickard, par exemple, on pense qu'elle a été incendiée, parce que ça faisait trop peur.
C'est diabolique.
C'était l'époque, je crois que la mère de Schickard d'ailleurs était sorcière et elle a été brûlée. Époque.
On était vite, la mère de Kepler l'était bien aussi.
Enfin, c'était une époque où il n'était pas bon de mettre l'intelligence dans une machine.
Non. Mais en tout cas, donc ça, c'est quand même censément, apparemment, la première qu'on connaisse.
Mais
ces machines à calculer.
Qu'on connaisse. Mais donc Schickard.
Et qui soit peut-être resté aussi.
Oui, c'est ça. Mais on a des dessins, grâce à Kepler, on a des dessins de la machine de Schickard. Et dans mes dossiers, j'ai un document qui permettrait. Bon, si j'ai le temps, je vais. écrire quelque chose sur une première machine.
Il y a des choses antérieures encore.
Oui, il y a des choses qui ne sont pas écrites encore. Il y a des recherches à faire là-dedans.
L'histoire n'est pas finie.
L'histoire n'est pas finie,
ce point de vue-là.
Non.
Mais bon, il faut peut-être toujours remettre ça un peu dans l'époque et les nécessités d'une époque. On sait par exemple que l'horlogerie a fait des progrès considérables en regard de ce qu'on appelait le problème de la longitude. C'est-à-dire il fallait que les bateaux puissent déterminer leur longitude et pour ça, il fallait des chronomètres, une horloge précise. Ça faisait l'objet d'un concours en Angleterre avec un prix qui serait faramineux à nos yeux d'aujourd'hui, mais ça a pris des décennies pour y arriver. Et d'ailleurs, l'histoire de ce prix est un peu trouble. Enfin, mais peu importe, je veux dire que on en avait besoin pour les marins, mais on avait besoin aussi de tables de trigonométrie, etc. On avait besoin de calculs à cette époque, et de calculs en grand nombre, parce qu'il fallait les faire, ces tables.
Si vous arrivez à Babbage, quand même.
J'arrive à Babbage, parce que il y a les tables de trigonométrie, il y a les logarithmes, etc., qui apparaissent.
Enfin, des actuaires.
Les actuaires. Donc, il y a des tas de calculs à faire. Oui. On y emploie des tas de calculateurs.
Des hommes.
Cette manufacture à logarithme de monsieur de Prony à la fin du XVIIIe siècle, il faut peut-être en dire un mot quand même, comment on faisait à l'époque.
Si vous me permettez, je vais surtout raconter que Babbage a vu ces manufactures humaines en train de calculer et il y a vu la division du travail et le fait que les calculateurs faisaient des travaux tout à fait répétitifs. Donc, une fois que, ça avait été pensé par des mathématiciens de haut vol, enfin, qui avaient une formation, l'homme de la rue, qui savait faire une addition, pouvait entrer dans ces manufactures de Prony et faire tout le temps des additions qui étaient supervisées, si vous voulez, par ces calculateurs.
Oui, parce qu'il faut bien expliquer aussi que tout ça correspondait à, je dirais, au processus arithmétique qu'on utilisait pour arriver à des résultats qui étaient ce qu'on appelle la méthode des différences finies, c'est-à-dire qu'on va de proche en proche. Et donc, ce sont des opérations qu'on répète. Je vais pas utiliser même le mot multiplier qui pourrait compliquer les choses,
mais
qu'on répète à l'identique de proche en proche et on arrive à un nombre de décimales voulues, etc. Et on s'arrête là, quoi.
Exactement ça.
Donc c'était la façon de procéder de l'époque.
Oui, et ça implique, je vais vous faire remarquer, la division du travail. Hein, parce que c'est l'époque de la division. Enfin, tout ça, c'est la même mouvance de pensée, si je puis dire.
Donc, au lieu de visser un boulon, on fait son addition.
Voilà, c'est ça. Et donc Babbage a effectivement vu cette manufacture de Prony. Et puis il a vu aussi, on le sait parce qu'il le dit. Donc là, on a des textes.
Mais c'est qui Babbage? Parce que
Babbage.
Je ne suis pas sûr que tout le monde le connaît.
Non. C'est un Anglais qui est un génie complètement méconnu, effectivement, qui était très riche à la naissance. Il avait hérité de ses parents, mais il a employé pratiquement toute sa fortune.
Qui se ruine à essayer de faire
cette
machine à calculer.
Et qui s'épuise et qui est mort dans la misère et l'amertume. Enfin, c'est une triste histoire.
Mais c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que tout ça coûtait très cher.
Coûte très cher parce qu'en fait, Babbage va devoir faire fabriquer une à une des pièces qui doivent être parfaites par son technicien qui s'appelle d'ailleurs Clement, avec lequel il va disputer. C'est toute une histoire et ça me permet de dire que le hasard intervient beaucoup. J'y suis très sensible personnellement dans l'histoire. Ça va expliquer ce qui s'est passé avec Babbage parce qu'il a commencé à réfléchir à une machine qu'il va appeler la machine à différence.
Certains disent que c'est une mauvaise traduction, parce que donc ces fameuses machines à faire des différences finies.
Oui, c'est ça qui fait des additions, en fait. Elle ne fait que des additions, et elle remplace donc ce que faisaient effectivement les personnes qui travaillaient dans
ces ateliers, on pondait de la table de trigonométrie.
Exactement. Mais donc, en fait, il va programmer sa machine pour faire des séries d'additions bien précises. Et ça, c'est effectivement pour réaliser des tables précises, avec beaucoup de décimales, des tables d'actuaires, des tables...
Et sans erreur.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, que sa machine prévoit une imprimante. Et que, en fait, c'est pour ça aussi qu'il obtient une subvention du gouvernement britannique, parce que c'était très important pour la marine d'avoir des tables nautiques correctes pour ne pas que les bateaux fassent naufrage, bien évidemment. Donc, il y avait un impact important pour l'Angleterre. J'en reviens au fait qu'il n'y avait pas d'industrialisation, bien sûr, et chaque pièce doit être faite à la main. Or, elle doit être parfaite. Donc, vous imaginez, ça coûte une fortune colossale.
Oui, en espérant que tout marche au bout du compte.
En espérant que tout marche, mais ça marchait. Clement était un excellent technicien, mais ça lui prenait un temps considérable de faire une roue dentée. identique à la suivante. Enfin, je veux dire, c'est toute une expertise. Et c'est probablement pour ça que ça n'a pas marché, parce que depuis lors, cette machine à différence, comme vous le savez,
On
l'a faite et elle se trouve marcher parfaitement bien. Si vous allez au Science Museum à Londres, vous verrez ce que l'homme du XXe siècle a fait à partir des plans de la machine à différence de Babbage.
Parce que lui n'est jamais arrivé au bout.
Non, il n'a fait qu'un morceau. Un morceau donc, qui se trouve d'ailleurs comme pièce maîtresse au Science Museum, dans une chambre tout à fait particulière, parce que c'est quelques roues dentées qui ont été réalisées par Clément et son technicien et qui permettent de voir la sophistication qui était prévue, réalisée vraiment comme ça allait devoir être fait. Mais la machine, au finish, devait être énorme et marcher avec une manivelle. Enfin, vous pouvez voir ça au Science Museum. Et elle impliquait deux niveaux de programmation. Donc, il y avait bien sûr le report de retenue sur lequel Babbage a travaillé un temps considérable. Il décrit partout que c'est ça, son principal souci, c'est d'optimiser de façon mécanique le report de retenue. Et cela l'a amené à compliquer sa machine et à faire un niveau supplémentaire aussi. Donc, il va concevoir une roue dentée qui va implémenter le séquencement de ses retenues de façon à faire les additions comme il le veut, si vous voulez. Et donc, à chaque tour de manivelle, vous faites une séquence complète d'additions pour remplir les tables, tables qui allaient devoir être imprimées aux sorties pour éviter les erreurs de recopie.
Donc, oui, parce que ça, c'était un gros problème aussi, d'édition en édition, commençait à accumuler les erreurs, et il y avait déjà peut-être les fautes de calcul au départ, puis il y avait les fautes du typographe, etc.
Et ça, donc, il y avait à prêter attention, et il voulait éviter ces erreurs-là aussi. Mais alors, il s'est disputé avec Clément, donc son technicien, donc c'est là le hasard de l'histoire, et ce que généralement on ne sait pas, c'est que en Angleterre, c'est celui qui fait les plans, qui les dessine, qui en est propriétaire, et pas celui qui les conçoit. Alors, pour se venger, Clément, qui s'était fait rabrouer, est parti avec tous les plans. Et donc, Babbage s'est retrouvé tout seul, je veux dire, sans son technicien et sans ses plans, ne sachant plus rien faire. Et il a fait ce qu'on dit de faire aux informaticiens qui étudient la programmation, si je puis dire. Il a généralisé son problème. Il a pensé à faire une machine bien plus révolutionnaire que la machine à différence. C'est une machine qu'il a appelée la machine analytique, dont il n'a fait que les plans, pas une seule pièce, mais machine analytique qui devait être capable de réaliser n'importe quelle séquence d'opérations, que ce soit addition, soustraction, multiplication, division. Donc n'importe quelle séquence qu'un programme allait lui dicter. Et le programme, il allait être le programme de niveau supérieur, parce qu'ici, il y a trois niveaux de programme, ça devient encore bien plus compliqué. Le programme de niveau supérieur, il allait être réalisé sur carton perforé. Carton perforé, que avait vu Babbage sur les métiers jacquard. Et ça, on en est sûr aussi, puisqu'il le dit.
Oui, donc on voit, on était passé à notre monsieur Bouchon, qui avait utilisé donc
le
système de papier perforé. Oui. On continue, je dirais, le perfectionnement
des métiers à tisser au calcul, cette fois-ci.
Avec Jacquard, qui utilise des cartes perforées pour les métiers à tisser.
Oui.
Cartes perforées qui vont revenir cette fois-ci du côté des
calculs.
Des machines
pour la première fois, on va implémenter le calcul à partir de cartes perforées.
Thank you.
Il faut peut-être, avant de quitter Babbage, quand même insister sur une chose, c'est qu'il nous a été connu en français par Ada Lovelace, qui est quand même la fille de Lord Byron. Enfin, c'est un personnage
oui,
quand même qu'on
personnage.
Ne connaît pas beaucoup non plus et qui a donc été mêlée de très près.
Oui, parce qu'en en fait, elle a fait la... D'abord, je crois qu'elle s'était prise de Babbage, je pense. Mmh. Je ne sais pas si c'est réciproque, mais Babbage avait perdu sa femme qu'il aimait beaucoup et ça a d'ailleurs été une partie de ce qui explique l'écroulement de sa vie personnelle. Bon, peut-être que ça lui faisait plaisir de retrouver une âme sœur. Mais Ada Lovelace est intervenue pour traduire les textes de Babbage et en particulier les programmes destinés à la machine analytique. Et certains pensent qu'elle avait vraiment bien compris les choses.
Et qu'elle lui aurait apporté quelque chose.
Mais là, je n'en suis pas sûre, parce que depuis lors, j'ai lu de très sérieux anglais qui démentent complètement cette vision des choses et en disant qu'au contraire, on voit très bien qu'elle n'avait pas si bien compris que ça. Donc voilà, c'est l'objet d'une controverse.
Oui, oui, enfin, nous la laisserons...
Enfin, c'est une des premières femmes de l'histoire.
Oui, bon, je pensais à Madame du Châtelet, peut-être, qui est quand même traductrice de Newton. Hein. Bon, c'est pas... Oui. Un peu de choses, peut-être un peu oubliées derrière Voltaire, mais n'empêche, il y en a quelques-unes comme ça qui sont à des endroits clés, comme ça. Il faut quand même insister aussi sur toute la conceptualisation qu'il y a derrière ces machines. Hein. Je veux dire qu'il y a toute une façon d'envisager le calcul. Et là aussi, il y a des millénaires d'héritage pour arriver à pouvoir conceptualiser ce qu'est le calcul et comment on peut traduire ça dans un langage compréhensible par une machine.
Ça, c'est vrai. Mais si vous dites des millénaires d'héritage, alors permettez-moi de rebondir là-dessus, parce que je voudrais souligner le fait rarement mis en évidence que pour faire une machine à calculer telle que les ont faites Pascal et à sa suite Babbage, il fallait une numération de position, c'est-à-dire dans lequel la position du symbole dans le nombre est significative. C'est une numération qui a été inventée plusieurs fois dans l'histoire des hommes, mais qui a été inventée particulièrement la première fois vers 1800 avant Jésus-Christ, à l'époque de Hammurabi en Babylone. Avant ça, la numération sumérienne était additive. Et cette numération-là ne permet pas de réaliser des machines à calculer comme nous le faisons. Ça, c'est vraiment fondamental et jamais dit.
Oui, ceci dit, c'est fondamental, mais ça pose un problème à Babbage, après beaucoup d'autres. Hein. Je veux dire qu'il y a ce fameux report. Hein.
Ça implique le report de retenue. Bien sûr, ça implique le report de retenue, c'est évident. Donc Babbage a réfléchi énormément, il le dit dans ses textes, au report de retenue. Et donc, dans sa machine analytique... Sa machine a dû être beaucoup plus compliquée que la machine précédente, la machine à différence, et ça l'a obligé à faire une avancée majeure que je voudrais dire maintenant, c'est la séparation du calcul et de ce que lui appelle le stockage d'informations que nous appellerions nous maintenant mémoire.
La mise en mémoire.
Mise en mémoire, mais c'est vous qui le dites, donc il n'emploie pas ce mot-là. Mmh. Il va parler du moulin pour le calcul 1000 et du magasin pour ce que nous appellerons mémoire maintenant. Mais c'est donc la première fois que ces deux fonctions sont distinctes, la localisation de ces deux fonctions est distincte dans une machine. Pour la première fois, c'est Babbage qui invente ça. Babbage, il invente tout. Il invente même le branchement conditionnel, déjà. Donc, sa machine allait devoir être capable d'implémenter le branchement conditionnel. Le fait donc de prendre...
En fonction d'un résultat, décider de la suite. Quoi,
déjà, sa machine devait pouvoir faire ça. Mmh. Si vous me permettez de faire un bond en avant, c'était déjà l'ordinateur à ceci près que le programme n'entrait pas en mémoire centrale. Il restait sur carte perforée. Sinon, toutes les caractéristiques de l'ordinateur seraient... Évidemment, aussi son implémentation, ce n'était pas électronique. C'était une machine à vapeur. Elle devait avoir la taille d'une locomotive et être mue par la force de la vapeur.
Mmh. Enfin, ça, à ma connaissance, elle n'a jamais été...
Elle n'a jamais été construite. Vous avez raison, mais figurez-vous qu'il y a une souscription pour le moment... Sur Internet, vous pouvez y cotiser parce que les Anglais voudraient la construire. Donc, ça pourrait venir.
Oui. Quand on parle de ces calculs, donc la suite de séquences, dans ce cas précis, je crois qu'on peut parler aussi de façon plus générale de ce qu'on appelle un algorithme. Hein. C'est une suite d'opérations pour arriver à un résultat. Une suite finie d'opérations pour arriver à un résultat.
Vous avez parfaitement raison, mais c'est telle qu'elle se trouve dans la tête de l'homme. Tandis que le programme tel qu'il est compris dans la machine, c'est l'autre versant, ce qui m'intéresse davantage. Vous voyez ce que
oui,
je veux
oui,
dire
oui, 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 mais encore une fois, bon, comment est-ce qu'on fait le passage de l'un à l'autre
Ah, ben justement, concrètement, il fallait être très compétent. Je crois qu'il n'y avait que Babbage qui était capable de faire ça à l'époque. Aurait pu être capable de faire ça, c'est à partir de ce qu'il n'appelle pas programme, c'est aussi un nouveau mot. Il appelle ça formula. Mmh. Donc sa formule, qui est en fait écrite sur papier, une formule en langage pseudo-mathématique, donc c'est son algorithme. On a des exemples d'algorithmes de Babbage, hein, même en français, parce que Ada Lovelace les a traduits. Eh bien, il faut que, sur base de ce qui est écrit sur papier, on puisse construire un programme compris par la machine, c'est-à-dire prendre les bonnes cartes perforées, chaque carte perforée correspond à une action, à une opération, les mettre dans le bon ordre et donner ce paquet à la machine dans le bon ordre. Ça, c'est le programme tel qu'il est compris par la machine. Pour le faire, il faut connaître à la fois la machine, la façon dont les cartes sont rangées, ce que sa carte signifie, savoir comprendre ce qu'il y a sur la formula. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, hein. Il faut tout connaître, en fait. C'est justement ce, si vous voulez, cet hiatus-là qui va être sauvé dans les ordinateurs à programme enregistré à mémoire, dans la mémoire centrale. Je vous expliquerai pourquoi. Mais ce passage de l'un à l'autre sera plus facile à faire.
De ces machines à calculer, on parle évidemment des monuments qui étaient cette machine à différence de Babbage qui n'a donc jamais abouti de son vivant, de cette machine analytique qui jusqu'à aujourd'hui
n'est pas construite.
Mais ça n'empêche qu'on voyait se multiplier dans le public des tas de machines à calculer. Et encore une fois, qui peuvent coûter très cher, mais qui marchaient très bien. Moi, j'ai vu un truc qui s'appelait l'arithmomètre.
De Colmar,
qui est une... C'est une belle machine aussi, qui est aussi un chef-d'œuvre d'horlogerie, enfin, dirons-nous.
Mais pas aussi précis que ce que Babbage voulait faire. Hein.
Avec moins de capacité. Mais enfin, je veux qu'on peut imaginer d'avoir ça dans son magasin.
Oui, c'était le cas.
Ou dans les banques, etc. Moyennant quelques molettes à tourner, on faisait à peu près toutes les opérations qu'on voulait.
Oui, mais le programme, il était dans votre tête. C'est vous qui disiez le séquencement des opérations à faire. Tandis que la grande nouveauté avec Babbage... c'est que le programme, c'est la machine qui va l'avoir. Elle devra connaître elle-même le séquencement, vous lui donnez à l'avance. Donc vous voyez, de nouveau, on retombe sur la notion de séquencement que la machine doit incorporer avant d'agir. Donc il y a vraiment ce que nous, on appelle...
Et la capacité aussi donc, d'aller stocker un résultat en attendant de s'en servir
aussi,
pour pouvoir aller le rechercher.
La machine de Babbage le faisait.
Oui, justement, il y avait chez Babbage.
Exactement.
Enfin, potentiellement, en
potentiellement.
Tout cas.
Potentiellement.
On ne le saura jamais vraiment.
Oui.
Non plus. C'est un autre chapitre quand même. Mais on reste d'une certaine manière en Angleterre. On sait tous aujourd'hui à peu près que quand on parle en langage ordinateur, c'est 0 ou 1. Comment est-ce qu'on en arrive à ça? Il faut passer par l'Angleterre, encore une fois. C'est M. Boole, peut-être.
Vous voulez parler de Boole et de l'algèbre booléenne. Oui, c'est ça. C'est cet autodidacte qui a inventé l'algèbre avec le vrai et le faux comme valeur. Effectivement, il faut passer par là. Et ce que vous me permettez de dire avec ça, c'est que, en fait, un ordinateur, c'est un calculateur, mais le mot calcul est pris au sens tout à fait général.
C'est plus de la logique que de l'arithmétique,
dirais-je,
non ?
Alors, si vous permettez, oui, c'est ça, parce que donc, mais l'algèbre booléenne, c'est du calcul aussi. Donc, raisonner, c'est calculer dans ce sens-là.
Où, oui, on est proche de la pensée.
On est proche de la pensée.
Oui, dans mais enfin, ce, dans bon, ce, proche. Hein,
bah, c'est ça. Mais donc, c'est à partir de données, sur base de règles, tirer des conclusions. Pouvoir tirer des conclusions.
On voit bien qu'il y a, je dirais, la frontière rétrécie entre une pensée logique et une méthode de calcul.
Alors, effectivement, les deux vont converger. Forcément, derrière le séquencement des calculs, l'homme prévoit... Donc, un algorithme, c'est un séquencement. Donc, la logique humaine qui va façonner l'algorithme, c'est la logique du mathématicien. Mais l'histoire des 0-1, ça, c'est encore autre chose, si vous me permettez. Ce n'est pas là que moi, je veux en venir. Simplement, c'est que le séquencement qui sera mis dans la machine pour faire un calcul, cette fois-ci, c'est un séquencement de calcul, et ce n'est pas un séquencement de lettres, ce n'est pas un séquencement de mouvements, ce n'est pas un séquencement de notes de musique, mais le principe séquencement appliqué au calcul, c'est un algorithme. Alors maintenant, les 0-1, ça c'est autre chose. En fait, il faut que je vous parle de l'ordinateur, enfin tel que je le vois, c'est que à partir du moment où on fait l'étape suivante, donc après Babbage et peut-être sans influence de Babbage, parce que ça c'est une autre histoire, on réinvente la roue. Hein. Donc on décide de mettre le programme en mémoire centrale. Ça implique que pour parler à la machine, donc passer de l'algorithme tel qu'on l'a conçu à ce que la machine comprend, on utilise 0-1 et plus des trous ou des picots. On va utiliser 0.
Ce qui revient au même, hein, d'une certaine
manière. Ce qui revient au même, sauf que vous avez...
Le courant passe ou il ne passe pas.
Exactement, voilà, vous avez un switch. Ça sera implémenté par des switches. Mais ça veut dire que le programme tel qu'il est compris par la machine achève son processus de dématérialisation. D'abord, c'était des picots en fer et puis des trous du papier. Et maintenant, on va parler à la machine à travers des 0-1 qui vont être implémentés par des switches, que ce soit des lampes,
quoi,
des interrupteurs. Donc vous voyez, c'est là que moi je vois les 0-1. L'algèbre booléenne, ça c'est autre chose. Si vous voulez, je l'emploie pour vous dire que le calcul qu'on peut mettre en œuvre par un ordinateur, ça peut être de l'algèbre logique. Et donc, on peut raisonner.
Mais on peut raisonner cette fois-ci, ce qui est quand même, j'ai envie de dire, un pas supplémentaire à calculer.
Oh, mais non, parce que calculer, ça veut dire aussi raisonner si vous faites de l'algèbre logique. C'est simplement qu'il faut définir convenablement les mots. Voyez, mais la définition telle que Rüttishauser, qui est le maître à penser de M. Minguet, si jamais je vous parle de la machine mathématique FNRS, calculer, c'est au sens large, implique de pouvoir faire du raisonnement, puisqu'il suffit d'utiliser l'algèbre logique plutôt que de l'arithmétique, et vous pouvez raisonner.
Mais on est quand même dans un niveau d'abstraction supérieur, me semble-t-il. Il est vrai qu'en Angleterre, on s'est quand même beaucoup penché sur ces questions de logique, qu'on appelle la logique formelle, hein, qui est donc liée aussi aux problèmes qu'ont connus les mathématiques donc, au tournant des 19e et 20e siècles.
Vous allez parler de Turing.
Pas encore, peut-être, mais non, je veux dire qu'on se demandait, par exemple, est-ce qu'on peut tout calculer ? Est-ce que tout est calculable ?
Oui, mais donc,
comment est-ce qu'on décide si tout est calculable ? Ben, peut-être qu'on peut le savoir. Si on trouve un algorithme qui permet de tout calculer, ça veut dire qu'on peut faire la démonstration que tout est calculable, et ainsi de suite.
Mais donc là, vous, quand même, vous me donnez les armes pour parler de Turing.
Allons à Turing, alors.
Oui, c'est ça,
Alan Turing,
dans son
autre anglais.
Exactement, autre anglais. Donc, dans son article de 36-37, qui est le plus célèbre, donc sur les nombres calculables, et sa fameuse machine de Turing, qui est une machine conceptuelle, hein, ce n'est pas une machine matérielle à implémenter, ça se passe au niveau des concepts, cela. Et donc, en fait, ce qu'il cherche à prouver, c'est que certains problèmes ne peuvent pas être résolus par un algorithme. Par contre, s'ils peuvent être résolus par un algorithme, alors...
Mais ils sont calculables, fatalement.
Donc, on peut faire une machine qui va... Les,
qui va réaliser l'algorithme.
Oui, c'est ça, on peut automatiser. Mais ceci dit, enfin moi j'ai lu plusieurs textes d'historiens anglais extrêmement éminents qui ont me semble-t-il, pignon sur rue et qui sont les plus avertis de l'histoire de Turing au niveau de sa participation à la construction des ordinateurs. Plus tard dans sa vie, il va construire des ordinateurs et encore entre-temps, il aura travaillé à Bletchley Park à décrypter les messages de l'Enigma.
Oui, c'est un héros.
C'est un héros national, mais qui n'a pas pu...
Mais tragique.
Héros tragique, oui, bien sûr. Mais ce que, par exemple, Randell, qui est vraiment l'historien de l'informatique, probablement le plus éminent, dit, c'est que, ou en tout cas un collègue qu'il cite, c'est que probablement Turing ne s'est rendu compte qu'a posteriori de l'impact que pouvait avoir son article de 36 et que c'est quand il a eu lui-même vu ce qui se passait, qui s'est dit « Ah, mais au fond, c'est exactement ce que mon article conceptuel disait, mais que ce n'est pas à base de cet article qu'on a construit un ordinateur. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas sur base de l'article de Turing qu'on a construit le premier ordinateur, le Manchester Mark I. Donc, non.
Peut-être quand même dire un mot donc de ces premiers ordinateurs. Qu'est-ce qui fait qu'on quitte la machine à calculer pour l'ordinateur ?
Donc ordinateur au sens strict, comme je le définis à la suite de beaucoup d'autres, c'est donc une machine à calculer dont le programme, lorsqu'il est exécuté, est enregistré en mémoire centrale. Et ça, c'est une avancée majeure. Ça veut dire que maintenant, la machine, puisqu'elle a en mémoire centrale, aussi bien le programme sous forme de 0-1 que les données, elle peut traiter, elle peut modifier le programme elle-même. Donc le programme devient modifiable automatiquement. Ça a des implications un peu compliquées, peut-être je ne vais pas entrer dans le détail, mais ça permet de réaliser plus facilement la programmation des boucles et des branchements. Mais ça permet surtout quelque chose. Donc, si elle peut modifier, elle peut créer des programmes aussi. Et donc, on s'est rendu compte, de nouveau, a posteriori et pas au moment même. Donc, cette invention dans les concepts, elle date des environs des années 45. C'est von Neumann, un Hongrois qui a émigré aux États-Unis, qui est, entre
aussi
autres,
un grand nom.
Qui est économiste, mathématicien. On a compris tout un temps après l'impact de cette innovation. Et ça, de nouveau, j'aime bien le souligner, parce qu'on ne comprend pas la portée au moment même des choses qu'on fait, très souvent. Donc, à partir du moment où l'ordinateur est capable de modifier son programme, eh bien, non seulement il est capable de calculer, mais il est capable d'aider lui-même à la programmation. C'est-à-dire que si vous lui donnez comme input un programme, on peut lui donner un programme qu'on avait appelé un compilateur, qui va être capable de transformer un programme écrit dans un langage de haut niveau, donc facile, plus facile à employer pour un programmeur. Donc, transformer un programme de haut niveau en un programme
Qu'est-ce
en langage...
Qu'est-ce que vous appelez un langage de haut niveau ?
Eh bien, par exemple, c'est le Fortran.
Non, mais c'est déjà un langage en soi.
C'est un langage en soi, bien sûr, mais qui ressemble plus à de l'anglais qu'à une suite de 0-1. Langage machine, c'est une suite de 0-1. Donc, est-ce que vous imaginez que le monsieur qui a programmé la machine IRCA FNRS, il devait utiliser... Là, c'était de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais c'est tout.
Oui, oui, on ne pouvait pas dire additionner, soustraire, etc. Il fallait traduire tout ça en
donc,
suite de chiffres.
Vous rendez compte les risques d'erreur qu'il y avait là-dedans. Donc j'en reviens à la compilation, donc, qui est quelque chose de génial et qui a été implémenté aux États-Unis. Et en particulier, vous alliez parler de Grace Hopper, qui est une femme très célèbre qui a réalisé un des premiers compilateurs qui était dans la marine américaine, là, oui, bien sûr, qui était bien connue, mais... Ce que je voudrais vous dire, nous sommes européens quand même. Je sais, grâce à Jean Minguet, qui m'a fait lire Rüttishauser, son maître, qui a travaillé à l'ETH de Zurich, que, en fait, ceux qui ont eu l'idée de la compilation, ce sont les Européens. Et ils ne l'ont pas implémentée, mais l'idée, elle est européenne. Bon.
Bref.
C'est quand même... C'est des genres de choses qu'on ne sait pas, évidemment.
Mais de même que ordinateur, ça, c'est européen.
Alors, le mot ordinateur, effectivement, est un mot français pour traduire directement computer, mais pour traduire plus exactement stored program computer. Mais le mot ordinateur est un mot d'origine religieuse. L'ordinateur est un qualificatif de Dieu qui organise le monde. Et c'est un mot qui a
le
été.
Le grand ordinateur.
Le grand ordinateur. Et ça a été recherché en 1955. Par un professeur de Paris qui a suggéré de traduire le mot computer par ordinateur parce qu'il n'y avait pas de confusion possible avec la religion qui était tellement éloignée à cette époque-là. Bien sûr, le calcul est éloigné de la pensée de Dieu, donc on ne va pas mélanger les pinceaux.
Mmh. Oui, mais enfin, bon, on a quand même une sorte d'ambition supplémentaire là, quand on utilise ce mot-là et pas un autre.
Mais on a oublié ce détail, je pense. Plus
oui,
personne ne sait
oui
ça.
Probablement, quoique l'ambition est peut-être restée.
Peut-être.
En se résumant, qu'est-ce qui fait donc la singularité de l'ordinateur par rapport à tout ce qui a précédé ? On voit bien qu'on ne peut pas dissocier l'ordinateur de tout ce qu'il précède.
Oui.
Mais qu'est-ce qui fait sa singularité qu'on puisse parler, au fond, de révolution informatique cette fois-ci ?
Oui, donc la révolution, donc, elle passe entre autres par le compilateur, dont je vous ai parlé longuement déjà, qui fait qu'on peut utiliser des programmes déjà faits par d'autres et les importer sur une machine, qui fait que le programmeur n'est plus obligé de connaître tout le détail hardware de la machine. Vous vous rendez compte la différence ? Donc ça simplifie le travail du programmeur, ça permet d'acheter des programmes, donc
on standardise,
voilà. Ça permet à l'utilisateur de changer de programme en un clic. Donc vous passez d'un programme de comptabilité à un programme de traitement de texte, etc. Vous ne vous rendez même plus compte, mais c'est un exploit en fait. C'était impensable autrement. Donc ça donne une potentialité énorme, ça décuple les capacités de l'ordinateur qui ultérieurement va être mis en réseau, etc. Ça c'est encore une autre histoire. Et donc ça aussi, évidemment, Internet... Quand il arrivera, mais ce n'était pas notre propos aujourd'hui, mais c'est le complément qui vient faire que nous en sommes à ce que certains appellent la société de l'information basée sur l'informatique et les télécommunications.
Mon invité pour cette esquisse d'histoire de l'informatique était Marie Dudekem-Gevers, enseignante aux facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur. Cette émission a été réalisée par Marie-Noëlle Dumoulin et André Remy. Passez une bonne soirée, à bientôt.
Retrouvez Semences de Curieux le dimanche de 17h15 à 18h.
La première.